La personne humaine est une forteresse inexpugnable.
À mon avis, il faudrait être toujours prêt à donner et à recevoir.
Écoutez.
Avec la même grâce.
Vous êtes sur France Culture.
La radio
France Culture.
Le feu teinte dans les cloches.
Vous écoutez.
Et la parole
France
de l'eau.
Culture. La radio.
La clé des nuits légères enchaînées au cœur des
filles. Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture.
Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Le cours de Denis Knopfler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques, qui est consacré à Pausanias le Périégète et les cités de la Béotie antique, est la suite du cours que nous avons suivi l'an dernier sur notre antenne. Ceux qui ont, comme on dit, fait du grec à l'école, connaissent bien Pausanias. Géographe, historien, esthète, écrivain voyageur, Pausanias a écrit une description de la Grèce de son temps, celle du IIe siècle après Jésus-Christ. Cette description, en 10 livres, s'appelle Périégésis Hellados ou Périégèse. Chacun de ces livres porte sur une des régions de la Grèce et la Périégèse se présente un peu comme un journal de voyage. Denis Knopfler travaille ici sur le livre 9 de la Périégèse qu'il va publier très bientôt. Ce livre est consacré au voyage en Béotie. Denis Knopfler a attribué une nouvelle place au livre 9, dont il a établi qu'il se situe au début de la Périégèse, dans la suite logique du livre 1 consacré à l'Attique, pour des raisons littéraires, mais aussi parce que les trajets ne pouvaient coïncider autrement. Il s'est également arrêté, en lisant le livre de Pausanias, mot à mot, dans tous les lieux visités par l'auteur, et en a éclairci bien des mystères. Nous avions l'an dernier, guidés dans le texte de Pausanias par Denis Knopfler, visité trois villes de la Béotie antique, Platée, Acraïfia et Thepsie. Nous avons pénétré dans les sanctuaires, assisté aux cérémonies religieuses et retrouvé leur histoire. Parfois, même leur lieu réel, aidé en cela par les fouilles récentes de l'archéologie. Le cours de cette année portera sur Thèbes, la ville mythique aux sept portes. Donc, Pausanias continue son voyage en Béotie et quitte Platée pour Thèbes, mais en chemin se trouve la ville de Skolos, dont un proverbe disait « Mieux vaut éviter cette rude bourgade ».
Sur le chemin de Platée vers Thèbes, nous sommes en déplacement, on rencontre la rivière Oréoé. Cette Oréoé passe pour être la fille de l'Azopos. Si avant de franchir l'Azopos, le voyageur réfléchit sa route le long du cours d'eau en aval, il trouvera à une quarantaine de stades, les ruines de Skolos. Là, au milieu des ruines, se dresse le temple non entièrement achevé de Déméter et de Corée, sculpté à moitié aussi, seulement sont les statues de culte. Aujourd'hui encore, c'est l'Azopos qui marque la frontière de la Plataïde avec le territoire de Thèbes. Voilà pour la première partie de l'itinéraire. Car avant même d'atteindre la ville de Thèbes, Pausanias se lance dans un très long excursus, où nous ne suivrons pas pour le moment, sur les heures et malheurs de cette cité, depuis sa fondation mythique par Cadmos le Phénicien, jusqu'à ses démêlés avec le dictateur Sylla, lors de la guerre contre Mithridate au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est seulement au chapitre 8.1, qui est également sous vos yeux, que le Périégète, revenant en quelque sorte au point de départ de l'excursus, c'est-à-dire à la frontière entre le territoire de Platée et celui de Thèbes, donc sur les rives de l'Azopos, se soucie de reprendre sa marche vers la grande cité en écrivant ceci. Une fois franchi l'Azopos, quand on n'est plus qu'à une dizaine de stades de la ville, il y a les ruines de Potniaï, où se trouve un bois sacré de Déméter et de Corée. Et le périégète de fournir quelques informations sur le culte de ces divinités qui très certainement sont à l'origine même du nom de Potniai, puisque le vieux mot grec Potnia, parfois Potnathea, qui s'applique toujours à de puissantes divinités féminines, et très particulièrement aux deux déesses en question, se trouve déjà attesté en mycénien et à Thèbes même, dans la série des tablettes provenant de l'Académée. Où Déméter et Corée, on aura encore l'occasion de le dire plus tard, était adoré à l'époque historique en tant que divinité Thesmophoroi. On constate ainsi que de Platée à Thèbes, Pausanias a franchi deux cours d'eau et visité deux sanctuaires de Déméter et de Corée. Il avait, il faut le dire au passage, une vénération très particulière pour ces deux divinités, comme aussi pour Asclépios. La première rivière rencontrée par lui immédiatement au nord de Platée, du côté de la plaine, est l'Oréoé. L'Oréoé, qui est un modeste potamos. Alors vous avez ici une vue qui est peut-être flatteuse, dans la mesure où on y montre de l'eau, ce qui n'est pas toujours le cas dans une rivière grecque. Un potamos que l'on identifie sans trop de mal, même si notre auteur, vous l'avez noté au passage, omet de préciser quel en est le cours. On l'identifie à une rivière, petite rivière, la Napodo, également celle qui va en sens inverse par rapport à l'Azopos et à ses affluents, rivière appelée plus communément de Livadostras, nom moderne de la baie, vers laquelle, effectivement, elle descend par une dépression encaissée. Du témoignage d'Hérodote, qui mentionnait déjà cette rivière dans son récit de la bataille de Platée, en 479 avant Jésus-Christ, livre 9, 51, il ressort d'ailleurs que l'Oréoé prenait sa source au pied du Citeron. Hein, vous avez une vue générale de la vallée de l'Oréoé, Platée, Cocla, village de Cocla, qui est au pied de la montagne. Elle se dirigeait ensuite en deux bras, une espèce d'île, Nessos, dit Hérodote, d'un demi-kilomètre de large, pour enfin se précipiter vers un ravin en direction de la mer. La route longeant le cours inférieur de la rivière constituait en fait pour les Platéens l'unique voie d'accès direct à la mer. Mais c'était un chemin très incommode, à vrai dire, traversant des ravins rocheux et divers accidents, comme en témoignent quelques voyageurs modernes. Aussi n'apparaît-il presque jamais dans la littérature, ce chemin. Il n'y a guère que Xénophon qui l'évoque brièvement dans son récit de l'attaque menée par le roi de Sparte, Cléombrotos, en 378 avant Jésus-Christ, contre Thèbes, itinéraire rendu nécessaire par l'occupation, justement, des cols du Citeron. Comme le note Dumas, cet historien aux Helléniques, livre 5, chapitre 4. On n'est donc pas surpris de constater qu'en dépit de sa proximité relative, le bon port de Croïsis échappa presque toujours aux Platéens. Dès le début du IVe siècle, ainsi que le montre sans équivoque le fameux inventaire que nous avons examiné l'an dernier, dit à tort d'ailleurs de Corsiaille, c'est aux gens de Thespie qu'il appartenait. Pour Pausanias, comme déjà pour Strabon, Croïsis et l'Épinéion, la base navale principale de Thespie, et non pas du tout de Platée, qu'on aurait pu l'attendre. Mais revenons à l'Oréoé. Le périégète laisse clairement entendre que c'était un cours d'eau secondaire par rapport au très célèbre Azopos, car en s'inspirant à coup sûr d'Hérodote, Hérodote qui l'utilise souvent, hein, c'est un peu son auteur de prédilection à certains égards, il fait de la nymphe éponyme Oréoé une fille du dieu fleuve Azopos, conformément à une tradition locale qu'il indique comme telle. Car si pour les Grecs les fleuves importants sont toujours des toponymes masculins, le Kephissos, hein, le Mélas en Béotie même, le Rotas, le Péné, le Pénéios, etc., le Pleistos, le Strymon, on pourrait allonger beaucoup cette liste, les modestes rivières, en revanche, portent le plus souvent un nom féminin, Oréoé. Elles sont donc assimilées à une simple source, Pégée, Ainsi, pour s'en tenir là encore à la Béotie, la courte rivière de l'Erkina, à l'Ebadé, la source à Ganipé, fille du fleuve Permessos, principal près du fleuve du sanctuaire de Démuse, d'Espi, la Dirké à Thèbes, souvent opposée à l'Isménos, principal fleuve de Thèbes, et opposition du reste très intéressante, on y reviendra, dans la mesure où, par ailleurs, ces deux cours d'eau sont appelés frères jumeaux, dits du Moy. Ces petites rivières féminines, si l'on peut dire, ne jouent normalement aucun rôle dans l'anthroponymie. Nulle trace, en tout cas, d'un nom d'homme ou de femme, même aplaté, qui serait formé sur l'hydronyme Oréoé. Et il en va, bien sûr, tout différemment avec l'Asopos, que Pausanias rencontre, il va franchir un peu plus loin. C'était une rivière, en fait, d'une toute autre importance, je l'ai déjà indiqué, entre Thèbes et Platée. Non pas certes qu'il faille imaginer un fleuve pérenne et malaisé à franchir, même si, comme bien des cours d'eau le plus souvent asséchés, les xéropotamiens du paysage méditerranéen, ils pouvaient gonfler considérablement. Partant de pluie, Thucydide rapporte ainsi qu'au printemps 431, une crue subite de l'Asopos rendit très difficile aux Thébains le franchissement de ce modeste cours d'eau. L'Asopos Potamos était devenu tumultueux, mégas, dit Thucydide, livre 2, chapitre 5, et pas du tout facile à traverser. Ou radios diabatos, précise encore cet historien. Ce qui témoigne aujourd'hui, encore on peut dire, de l'importance de cette rivière, c'est d'abord la longueur de son cours, près de 50 km depuis les abords de l'Euctre à l'ouest jusqu'à son embouchure dans le bras de mer séparant la Béotie de l'Eubée à peu près en face de la cité d'Érétrie. C'est ensuite et surtout l'étendue du delta que forme l'Asopos, après avoir traversé successivement une plaine ondulée, celle que vous avez sous les yeux, puis une zone un peu plus vallonnée, la vue en haut, vers l'est, où on voit déjà au fond le mont Messapios qui domine le golfe, le canal de l'Eubée. Enfin, une gorge assez étroite, dont je n'ai pas d'image ici, avant l'embouchure. On ne s'étonne donc pas du tout que les anciens aient donné à toute cette région le nom de Parasopia, qu'on trouve déjà chez Hérodote, pays riverain de l'Asopos, et qu'ils aient par ailleurs regardé ce fleuve comme un puissant dieu nourricier. C'est ce qu'atteste d'emblée la place occupée par l'Asopos dans la mythologie béotienne, figure paternelle, on peut dire, dont sont issus bien des nymphes. À commencer par les divinités éponymes de Platée et de Thèbes, les deux cités les plus proches, enfin, parmi les plus proches, Plataïa et Thébé. Mais cela ressort aussi de l'abondante série des anthroponymes formés sur son nom. Là, le contraste est frappant avec la situation de la petite rivière Oréoé. Asopodoros, Asopoclès, Asopolaos, Asopotimos, sans oublier, il y en a beaucoup d'autres encore, les dérivés comme Asopios, Asopiades, Asopione, Asopikos. Série à laquelle il convient d'ajouter maintenant les noms formés sur Oropos. Oropos, tel Oropodoros, Oropiades, car je crois avoir démontré naguère, dans les actes d'un colloque d'Oxford, que cette petite série anthroponymique n'était en fait qu'un sous-groupe strictement localisé, circonscrit à la région du Delta, et surtout à l'Eubée centrale, autour d'Érétrie, de la même famille. La forme Oropos étant à considérer comme une simple variante eubéenne, érétrienne, peut-on dire, de l'hydronyme Asopos. Les noms en Asopos peuvent donc être tenus pour en fait pont béotien, et ils débordent la Béotie, mais on les trouve principalement dans les cités qui sont voisines du fleuve, hein, Thespie, Platée, Tanagra, surtout Thèbes, un peu moins fréquemment dans les cités riveraines du Copaïs vers le nord. Donc l'Asopos, nous dit Pausanias, marque et a toujours marqué, on le voit aussi sur cette carte-ci peut-être un peu déplacée, entre Thèbes et Platée qui est ici, la frontière. Entre ces deux cités. Cette information, Pausanias l'avait déjà donnée incidemment dans son livre 2, en traitant de la ville de Sicyone, de son passé mythique, où intervient la dynastie, justement, de Cadmos à Thèbes, 2-6-21. C'est un indice, parmi d'autres, pour le rappeler ici, tout à fait en passant, qu'il avait, dès alors, une certaine connaissance du pays béotien, au moment où il rédige le livre 2, et donc que le voyage béotien, à mon avis en tout cas, fait partie des toutes premières excursions de Pausanias. En fait, comme on l'avait vu l'an dernier, il existe bien des indices pour penser que les Boiotica ont été rédigés à mi-parcours, en fait, de l'élaboration de l'œuvre. Il faut ajouter que dans ce livre neuf, Pausanias ne se soucie presque jamais d'indiquer les frontières entre les cités. Alors que dans la plupart des livres précédents, et très particulièrement dans les Arcadica au livre 8, la mise en évidence des oroi entre chaque cité, des bornes, qu'elles soient naturelles ou artificielles, est pour ainsi dire systématique. Il y a un contraste extraordinaire à cet égard entre le traitement réservé à la moindre cité arcadienne. En prenant par exemple la petite Héraïa, je n'ai même pas besoin de la noter, de l'indiquer sur la carte, dont Pausanias indique les frontières avec ses trois voisines, à savoir Élis, Alifeira, Mégalépolis, et la façon très cavalière que le même auteur adopte dans le cas de Thèbes elle-même. Car si on le voit mentionner ici, la frontière constituée par l'Asopos, entre Platée et Thèbes, il est absolument muet. En revanche, sur les oroi délimitant le territoire thébain, du côté de Thespi, d'Aliarte, d'Acraïfia, d'Antédon, de Tanagra. Comment expliquer alors cette différence dans la manière de procéder? Pour ma part, je ne puis croire que Pausanias eût agi avec tant de désinvolture s'il avait rédiger le livre neuf comme on le croit le plus souvent, à la suite immédiate des livres 7 et 8. C'est donc à mes yeux un indice supplémentaire et des plus solides en faveur de l'antériorité des Boiotica par rapport aux Arcadica, aux Achaïca en particulier, qui sont à considérer comme les livres les plus récents de la périégèse. On voit cela dans l'article que j'ai cité en commençant. C'est que l'on a affaire ici, alors, puisqu'il faut bien expliquer l'exception que constitue l'Asopos comme frontière, évidemment à une frontière particulièrement importante et sensible, même sur le plan religieux. On n'a peut-être pas oublié le rôle joué par l'Asopos, au témoignage de Pausanias lui-même, lors de cette grande fête solennelle entre toutes, qui était la célébration des grands Daidala, pour marquer précisément la réconciliation entre les deux cités riveraines de l'Asopos, Thèbes et Platée. C'est sur les berges du fleuve, en effet, que se forme la procession emmenant vers le sommet du Cithéron 14 idoles sur autant de chars. À l'époque de Pausanias, le cours de l'Asopos devait être tenu pour une limite territoriale naturelle, entre guillemets, et donc fixée depuis toujours. Le périégète ne suggère-t-il pas cette permanence en ajoutant à son observation les mots kai, nun, eti, de nos jours encore? On a du reste un témoignage contemporain sur cette frontière, puisqu'une inscription, à vrai dire, très mutilée, trouvé à Thèbes, pouvant venir en fait de Platée, et qui date très exactement de l'année 139 de notre ère, donc on peut dire de l'époque même de Pausanias, qui conserve les pauvres restes, il y a un autre fragment que je ne vous montre pas, d'une décision arbitrale où la cité de Platée est plusieurs fois mentionnée, je l'ai souligné, parfois restituée avec beaucoup de vraisemblance, et aux lignes 24, à la ligne 24 du principal fragment, il y a la mention d'un Corion, est-ce que c'est une propriété ou est-ce que c'est un village, prostoi azopoi, jouxtant l'azopos, donc c'est, l'azopos est vu là probablement comme une comme la frontière. On se tromperait pourtant en croyant que la frontière entre Thèbes et Platée n'a jamais bougé. Hérodote signale par exemple qu'en vertu d'un arbitrage international qui fit suite vers 520 avant Jésus-Christ à une victoire des Thébains sur les Platéens, on déplaça les bornes, les oroi, en les rapprochant de la ville de Platée, c'est-à-dire au bénéfice de Thèbes. Et le même historien de préciser que les Athéniens, vainqueurs à leur tour des Thébains, rétablirent la situation antérieure en reportant la frontière sur le cours même de l'Azopos. D'autre part et surtout, il faut bien voir que cette frontière fut abolie à chaque fois que le territoire platéen tomba sous la tutelle de Thèbes, évidemment, c'est... le montre dans sur la carte que vous avez sous les yeux de le vaste territoire de Thèbes au 5e siècle, puis de nouveau en bonne partie du 4e siècle à plusieurs reprises. Inversement, les Platéens étendirent très probablement leur domination sur la rive nord de l'Azopos après la destruction de Thèbes par Alexandre et ils durent conserver cette zone acquise alors pendant un certain temps. On reviendra sur cette question. On se méprendrait donc en imaginant entre la Plataïde et la Thébaïde une espèce de barrière fluviale infranchissable. D'ailleurs, les fleuves, vous savez, unissent autant qu'ils séparent les populations riveraines. Mais quand ils servent, à coup sûr, ici, comme ici, de frontières politiques. Et c'est une chose assez fréquente. Pausanias atteste que plusieurs fleuves ou rivières de Grèce forment la frontière entre les cités. Dans le cas de la Parazopie, on peut dire que cette région constitue une unité géographique qui transcende les découpages politiques. Au surplus, l'Azopos ne constitue une frontière que sur une partie seulement de son cours. Il cesse d'avoir ce rôle dès qu'il entre dans la Tanagraïque, plus à l'est, puis dans l'Oropie. C'est ce qu'il faut avoir clairement à l'esprit quand on aborde le problème de Skolos. Petite ville dont la localisation me semble revertir, je l'ai dit d'entrée de jeu, un intérêt incontestable et à plusieurs titres. Certes, il ne s'agit que d'une modeste, voire obscure, bourgade, mais dont les habitants pouvaient tout de même se vanter de figurer au nombre des villes béotiennes qui étaient mentionnées par Homère dans le catalogue des vaisseaux, au vers 497 du livre du chant 2. Alors que plus d'une cité glorieuse, à commencer par celle de Tanagra, était privée d'un tel honneur. Cela montre à tout le moins l'ancienneté relative de l'établissement de Skolos, quelle que soit la date exacte, qui est toujours débattue, mais je n'entre pas dans cette discussion, du catalogue homérique, disons en tout cas aux alentours du 7e siècle. D'autre part, l'œuvre historiographique anonyme conservée par un papyrus grec d'Égypte, connu sous le nom d'Hellenica d'Oxyrhynchos, texte qui est extrêmement précieux pour l'étude des institutions béotiennes à l'époque classique, nous a appris, voici maintenant plus d'un siècle, que Skolos fut associé à la cité de Platée pour former avec elle une nouvelle communauté, un synésis, synoikismos. Et avec cela, l'un des quatre districts sur les 11 que comptait la Confédération béotienne d'époque classique. D'autre part, ce même texte aussi nous indique qu'en 431, au moment où éclata la guerre du Péloponnèse, dont le premier, d'ailleurs, et sanglant épisode eut lieu précisément en Parazopie, avec l'attaque thébaine que j'évoquais tout à l'heure contre Platée. La population de Skolos, comme aussi celle de Potniaï, que mentionne Pausanias dans le même passage, cette population fut déplacée vers Thèbes, parce que ces deux bourgades étant athéikistoï, dépourvues de remparts, étaient indéfendables en cas d'attaque athénienne. Mais sans doute le retour s'amorça-t-il dès après la prise de Platée en 426, ou en tout cas après 424, la victoire des Béotiens à Délion, quand la menace athénienne devint plus faible. Et en tout cas, au début du IVe siècle déjà, on entend à nouveau parler de Skolos, qui continue donc à exister. C'est vrai aussi pour Potniaï. Ces deux bourgs n'ont donc pas disparu dans le synoïkismos du Ve siècle. Si la localisation de Potniaï, au nord de l'Azopos, très faible distance de Thèbes, selon Pausanias, une douzaine, n'a guère posé de problème, depuis quelques divergences, l'archéologie a clairement réglé la question, on y reviendra sans doute, celle de Skolos a été davantage débattue, surtout, à vrai dire, depuis un demi-siècle. C'est que, dans un premier temps, le témoignage de Pausanias, combiné avec celui de Strabon, avait paru imposer le choix en faveur d'un site de la rive sud de l'Azopos, du même côté donc que Platée, et les bourgs de la Parazopie, Isiaï et Rytraï. On se souvient en effet que pour atteindre Skolos, en venant de Platée, le périégète indique une route longeant l'Azopos en aval sur une quarantaine de stades, donc 7-8 kilomètres, mais sans préciser, c'est là un des nœuds du problème, si le voyageur, cette distance une fois accomplie, doit ou non traverser l'Azopos. De ce silence, on a tout réellement inféré que Skolos se trouvait lui aussi en deçà de l'Azopos, du côté de Platée donc. Et si, et on a fait avec autant de plus de confiance que Strabon lui aussi semble dire la même chose, en d'autres termes, puisque le géographe situe Skolos au pied du mont Citéron, hein, donc tout à fait au sud de la Béotie. Et à cela s'ajoute qu'il indique cet endroit comme étant un lieu peu commode à habiter, plutôt rude, du soiketos topos kai trakus, 9-2-23. Avec un proverbe, je vous le disais, à l'appui de cette appréciation, ne va pas à Skolos, ne va pas à Skolos de ta propre initiative, autos, ni pour y suivre autrui. Donc, je suis tout à fait désolé de vous y entraîner malgré vous. Les chercheurs ont-ils longtemps emboîté le pas à ces deux grands noms de la géographie historique que furent, dans la première moitié du XIXe siècle, l'anglais William Martin Leake et l'allemand Heinrich Nikolaus Ulrichs, qui mirent Skolos au village de Darimari, aujourd'hui Daphni, au pied du mont Citéron, à l'emplacement d'un mektoshi, d'une dépendance du monastère d'Osios Melesios. Vous avez ici une vue depuis le castro qui domine ce site, avec une vue importante, imposante, sur toute la Parazopie, vers le nord, le fleuve étant un peu au-delà du canal qui est... Le canal ici artificiel qui apporte l'eau à Athènes, l'Azopos est un peu derrière, un peu visible. Qu'il y ait un site antique d'une certaine envergure, nul ne songe à le contester. Il y a quelques vestiges, surtout ici, on voit qu'il y a des pierres taillées, il y a divers éléments antiques. Mais le problème, est-ce bien Skolos que l'on doit y placer, comme l'a défendu encore naguère Paul Wallace dans un très utile commentaire historique et archéologique du livre neuf de Strabon en 1979, comme l'a un peu trop aisément admis à sa suite l'excellent éditeur 1995, du livre neuf de la géographie, dans la collection, justement, Budé, mon vieil ami Raoul Balladier, qui écrit que Skolos se trouvait sur la route d'Athènes à Thèbes, par Philée. C'est une affirmation que les données à disposition ne justifient pas vraiment. En fait, ces savants, comme beaucoup d'autres, ont accordé une importance excessive à l'évocation essentiellement littéraire que fait Strabon du bourg de Skolos. Loin de moi l'idée de médire de cet admirable géographe, mais n'allons pas demander à l'auteur d'une description de toute l'Oïkouménée, du monde habité, une connaissance détaillée du pays béotien, lui qui au surplus ne l'avait certainement jamais parcouru. Et le plus curieux proverbe qu'il allègue ne peut tenir lieu d'indices évidemment topographiques précis, car il peut s'appliquer à des endroits fort divers. On va voir qu'il existe en réalité chez les historiens anciens des témoignages nettement plus éclairants pour la question de Skolos. Mais dans un premier temps, contentons-nous donc de celui de notre Pausanias. On peut éventuellement remettre le texte. Par rapport à ces indications, la localisation de Skolos près du village de Daphni d'Arimari, donc la localisation tout à fait traditionnelle ici, comporte au moins trois inconvénients. Le premier, c'est que le site en question a livré au début du XXe siècle un fragment de l'édit, de ce qu'on appelle l'édit du maximum des prix de l'empereur Dioclétien. Je n'ai pas d'image de ce fragment ou de ces deux petits fragments, document qui est connu par de très nombreux exemplaires. Mais on constate que tous ces exemplaires ont été découverts dans des villes, des sites prospères ou relativement prospères à l'époque impériale avancée, ce qui serait donc très surprenant pour une ville comme une bourgade comme Skolos, dont on voit précisément par Pausanias que elle était, ce que c'est dit, elle était en ruine. En ereipiois. On ne dresse pas un tel document dans une bourgade à peu près désertée. C'est donc un argument contre la localisation traditionnelle. Et la deuxième difficulté vient de ce que, selon le Périégète encore, il y avait à Skolos un sanctuaire de Déméter et de Corée. Enfin, vous l'avez enregistré. Et ces divinités agraires, il y avait un lien spécifique avec la production céréalière, car grâce à une citation d'Athénée, d'auteurs hellénistiques, on voit que le sanctuaire de Skolos, c'est donc pas Pausanias qui nous dit cela, abritait des statues cultuelles de la Mégalartos et de la Mégalomazos, c'est-à-dire deux épiclèses de Déméter liées à la confection de pain de grande ou de galettes de grande taille. Et il ne semble pas que cet éperon rocheux de Darimari soit le lieu convenable pour le culte d'une divinité aussi liée à ce point à la production céréalière. Il y a une troisième difficulté qui n'est peut-être pas la moins sérieuse à mes yeux, encore qu'on la passe le plus souvent sous silence. En effet, si l'emplacement de Skolos correspondait vraiment à la localisation traditionnelle admise, encore une fois, sur toutes les cartes qui existent, y compris celles que j'ai pu publier parfois, comme celle-ci, hein, Skolos toujours placé au nord, toujours placé au sud, comme vous voyez sur cette carte de l'Azopos, on aurait peut-être du mal à comprendre véritablement ce témoignage de Pausanias. Car s'il avait vraiment voulu mener son lecteur vers Skolos, il était beaucoup plus facile pour lui de l'y conduire par la route qu'il indique d'ailleurs, une route transversale, au pied du Citeron, après Isiaï et Érythraï, plutôt que d'aller le fourvoyer le long de l'Azopos pour le faire mieux remonter vers Skolos. Donc là, c'est la localisation tout à fait traditionnelle. Bref, on échappe difficilement à la conclusion que Skolos devait se trouver plus près de l'Azopos qu'on ne le croit communément. Or, une solution de remplacement existe bel et bien. Elle a même été esquissée depuis longtemps par quelques bons connaisseurs de la biologie antique, mais sans discussion approfondie, jusque dans un ouvrage de 1894 sur The Topography of the Battle of Platea de l'anglais Grundy, qui avait vu, je crois juste, mais sans pouvoir proposer une identification précise. Et c'est d'ailleurs toujours en relation avec la fameuse bataille de 479 que l'archéologue et épigraphiste américain Pritchett, qui, chose remarquable, avait défendu l'opinion traditionnelle jusque-là, a été amené à proposer pour Skolos dès 1965, puis à défendre régulièrement depuis lors une localisation sur la rive gauche. Sur la rive gauche, c'est-à-dire donc au nord. Au nord. Mais cette carte-ci, que j'emprunte justement à Baladier, vous voyez que Skolos est toujours placé au sud. Et cela près d'un village légèrement au nord qui s'appelle Neokoraki, aux abords d'une chapelle où il y a des vestiges nombreux, beaucoup de céramique, et donc cette fois c'est une vue qui est prise du nord vers le sud avec le Citeron en arrière-plan, ce qui permettrait par voie de conséquence de laisser le site de Darimari pour une autre petite ville, en l'occurrence sans doute Erythrae. Mais dira-t-on peut-être, si Skolos est à mettre sur la rive nord du fleuve, comment expliquer que Pausanias n'ait pas jugé indispensable de l'indiquer clairement? À vrai dire, la chose n'est pas très difficile à expliquer, puisque lorsque le voyageur avait fait les 40 stades le long de l'Azopos, il voyait nécessairement Skolos de l'autre côté du fleuve, un endroit qui était très facile à traverser, et Pausanias, comme souvent, est rapide, n'indique pas tous les détails, d'autant plus que c'était, il ne faut pas l'oublier, pour lui, une espèce d'excursus, hein, de détour par rapport à son itinéraire principal. Donc le témoignage de Pausanias ne me paraît pas faire du tout, quoi qu'on en ait dit, qu'on le répète, obstacle à la localisation de Skolos au nord de l'Azopos. Mais ce qui compte bien davantage, c'est de constater que cette nouvelle localisation est en parfaite adéquation non seulement avec l'histoire générale de ce bourg, on en a vu qu'il était tiraillé entre Platée et Thèbes, mais aussi surtout avec le rôle que Skolos a pu jouer lors de deux épisodes militaires qui ont eu précisément la parasopie pour théâtre. Voilà une autre vue de la région de Skolos. On voit le Lazopos au premier plan, et puis la zone de colline où se trouve le site archéologique. Rien n'est visible pour le moment, hein. Et une carte qui ici nous aidera pour l'épisode narré par Hérodote, toujours en rapport avec la bataille de Platée de 479. Ce sont les préliminaires de la bataille. Donc à cette date, à l'annonce de l'arrivée des contingents grecs sur l'isthme de Corinthe, le commandant en chef de l'armée perse quitte Athènes, donc Mardonios, qu'il a dévasté, pour se rapprocher de ses alliés béotiens. Il vient d'Athènes, hein. Ça c'est l'itinéraire de Pausanias. On voit qu'il peut traverser Skolos, mais prenons la suivante si elle veut bien venir. Voilà l'itinéraire de Marionos qui va contourner le Parnèse pour arriver en Béotie auprès de ses alliés thébains. Ayant passé la nuit à Tanagra, dit Hérodote, 9-15, Mardonios se dirige sur Skolos dans le pays des Thébains. Et il installe son camp le long de l'Azopos, le grand camp perse de la bataille de Platée, le long de l'Azopos, du côté de Skolos, Paraton, Azopon, Potamon. À aucun moment Hérodote ne dit que le fleuve a été franchi. De fait, il eût été tout à fait déraisonnable pour les Perses de se placer le dos au fleuve, situation catastrophique en cas de revers. Ce qui a pu tromper les modernes, c'est que l'historien, pour donner une idée de l'étendue considérable du camp installé sur l'Azopos, le situe par rapport aux deux bourgs d'Érythrae et de Isiaï, mais qui étaient évidemment eux de l'autre côté au sud, au pied du Citéron. Donc on peut dire que l'épisode narré par Hérodote convient très bien à une localisation de Skolos dans ce secteur. Même chose on peut dire pour le second épisode à considérer, qui se situe à peu près, approchant à un siècle de un siècle de plus tard, c'est l'attaque de d'Agésilas. D'une certaine envergure, nul ne songe à le contester. Il y a quelques vestiges, surtout ici, on voit qu'il y a des pierres taillées, il y a divers éléments antiques. Mais le problème, est-ce bien Skolos que l'on doit y placer, comme l'a défendu encore naguère Paul Wallace dans un très utile commentaire historique et archéologique du livre neuf de Strabon en 1979, comme l'a un peu trop aisément admis à sa suite l'excellent éditeur en 1995 du livre neuf de la géographie dans la collection justement Budet, mon vieil ami Raoul Balladier, qui écrit que Skolos se trouvait sur la route d'Athènes à Thèbes par Philée. C'est une affirmation que les données à disposition ne justifient pas vraiment. En fait, ces savants, comme beaucoup d'autres, ont accordé une importance excessive à l'évocation essentiellement littéraire que fait Strabon du bourg de Skolos. Loin de moi l'idée de médire de cet admirable géographe, mais n'allons pas demander à l'auteur d'une description de toute l'Oïcuménée, du monde habité, une connaissance détaillée du pays béotien, lui qui au surplus ne l'avait certainement jamais parcouru. Et le curieux proverbe qu'il allègue ne peut tenir lieu d'indices évidemment topographiques précis, car il peut s'appliquer à des endroits fort divers. On va voir qu'il existe en réalité chez les historiens anciens des témoignages nettement plus éclairants pour la question de Skolos. Mais dans un premier temps, contentons-nous donc de celui de notre Pausanias. On peut éventuellement remettre le texte. Par rapport à ces indications, la localisation de Skolos, près du village de Daphni d'Arimari, donc la localisation tout à fait traditionnelle ici, comporte au moins trois inconvénients. Le premier, c'est que le site en question a livré au début du XXe siècle un fragment de l'édit, de ce qu'on appelle l'édit du maximum des prix de l'empereur Dioclétien. Je n'ai pas d'image de ce fragment ou de ces deux petits fragments, document qui est connu par de très nombreux exemplaires. Mais on constate que tous ces exemplaires ont été découverts dans des villes, des sites prospères ou relativement prospères à l'époque impériale avancée, ce qui serait donc très surprenant pour une ville comme une bourgade comme Skolos, dont on voit précisément par Pausanias que elle était, ce que cette ville était en ruine, en ereipios. On ne dresse pas un tel document dans une bourgade à peu près désertée. C'est donc un argument contre un argument contre la localisation traditionnelle. Et la deuxième difficulté vient de ce que, selon le Périégète encore, il y avait à Skolos un sanctuaire de Déméter et de Corée. Ça, vous l'avez enregistré. Et ces divinités agraires, il y avait un lien spécifique avec la production céréalière, car grâce à une citation d'Athénée, d'auteurs hellénistiques, on voit que le sanctuaire de Skolos, c'est donc pas Pausanias qui nous dit cela, abritait des statues cultuelles de la Mégalartos et de la Mégalomazos, c'est-à-dire deux épiclèses de Déméter liées à la confection de pain de grande ou de galettes de grande taille. Et il ne semble pas que cet éperon rocheux d'Arimari soit le lieu convenable pour le culte d'une divinité aussi liée à ce point à la production céréalière. Il y a une troisième difficulté, qui n'est peut-être pas la moins sérieuse à mes yeux, encore qu'on la passe le plus souvent sous silence. En effet, si l'emplacement de Skolos correspondait vraiment à la localisation traditionnelle, admise, encore une fois, sur toutes les cartes qui existent, y compris celles que j'ai pu publier parfois, comme celle-ci, hein, Skolos toujours placé au nord, pardon, toujours placé au sud, comme vous voyez sur cette carte de l'Azopos, on aurait peut-être du mal à comprendre véritablement ce témoignage de Pausanias. Car s'il avait vraiment voulu mener son lecteur vers Skolos, il était beaucoup plus facile pour lui de l'y conduire par la route qu'il indique d'ailleurs, une route transversale, au pied du Citeron, après Isiaï et Érythraï, plutôt que d'aller le fourvoyer le long de l'Azopos pour le faire mieux remonter vers Skolos. Donc là, c'est la localisation tout à fait traditionnelle. Bref, on échappe difficilement à la conclusion que Skolos devait se trouver plus près de l'Azopos qu'on ne le croit communément. Or, une solution de remplacement existe, bel et bien. Elle a même été esquissée depuis longtemps par quelques bons connaisseurs de la biologie antique, mais sans discussion approfondie, jusque dans un ouvrage de 1894 sur The Topography of the Battle of Platea de l'anglais Grundy, qui avait vu, je crois, juste, mais sans pouvoir proposer une identification précise. Et c'est d'ailleurs toujours en relation avec la fameuse bataille de 479 que l'archéologue et épigraphiste américain Pritchett, qui, chose remarquable, avait défendu l'opinion traditionnelle jusque-là, a été amené à proposer pour Skolos dès 1965, puis à défendre régulièrement depuis lors une localisation sur la rive gauche. Sur la rive gauche, c'est-à-dire donc au nord. Au nord. Mais cette carte-ci, je peux peut-être éteindre, disparaître la première. Cette carte-ci, que j'emprunte justement à Baladier, vous voyez que Skolos est toujours placé. Est toujours placé au sud. Et cela près d'un village légèrement au nord qui s'appelle Neokoraki, aux abords d'une chapelle où il y a des vestiges nombreux, beaucoup de céramique. Et donc cette fois, c'est une vue qui est prise du nord vers le sud avec le Citeron en arrière-plan. Ce qui permettrait, par voie de conséquence, de laisser le site de Darimari pour une autre petite ville, en l'occurrence sans doute Érythraï. Mais dira-t-on peut-être, si Skolos est à mettre sur la rive nord du fleuve, comment expliquer que Pausanias n'ait pas jugé indispensable de l'indiquer clairement? À vrai dire, la chose n'est pas très difficile à expliquer, puisque lorsque le voyageur avait fait les 40 stades le long de l'Azopos, il voyait nécessairement Skolos de l'autre côté du fleuve, un endroit qui était très facile à traverser, Et Pausanias, comme souvent, est rapide, ne n'indique pas tous les détails, d'autant plus que c'était, il ne faut pas l'oublier, pour lui, une espèce d'excursus, hein, de détour par rapport à son itinéraire principal. Donc le témoignage de Pausanias me paraît pas faire du tout, quoi qu'on en ait dit, qu'on le répète, obstacle à la localisation de Skolos au nord de l'Asopos. Mais ce qui compte bien davantage, c'est de constater que cette nouvelle localisation est en parfaite adéquation non seulement avec l'histoire générale de ce bourg, on en a vu qu'il était tiraillé entre Platée et Thèbes, mais aussi surtout avec le rôle que Skolos a pu jouer lors de deux épisodes militaires qui ont eu précisément la parasopie pour théâtre.
C'était Éloge du Savoir, aujourd'hui, le Collège de France avec Denis Knopfler. Réalisation Thomas Duterre, présentation Christine Goémé.
Gana kamui atalinga asekie sheria okimbo ya mafuta ya kuwayo abeli malade ya waya waya kolotwae bolofa okalisa moe. Sana anabiringa limbondo ebelite abosa nikoti ya mungwa na basenzie.
pekisa yeteo mwasi asengi ngai liberté sheria yoki sekelea intente abuki mobeko ya bongo kokila
C'est juste une force brute qui vous emporte. Et puis si tout va bien, bon gré, mal gré, vous arrivez à l'amener où vous voulez. C'est vous qui finissez par orienter ce hasard en mouvement.
France Culture présente Un cheval, une pièce de Jean-Marie Besset, dans une mise en scène de Gilbert Desiraux, à partir du 24 août, au Théâtre Pépinière Opéra, à Paris.
C'est un truc intime jouer, c'est comme baiser, manger, tous ces trucs géniaux à faire, c'est hideux à voir.
L'histoire d'un homme qui se ruine en pariant aux courses, librement adapté de L'influence de l'argent sur les histoires d'amour de Christophe Bonnet. Un cheval, au Théâtre Pépinière Opéra, à partir du 24 août, avec France Culture.
Je croyais que j'arriverais à quitter l'hippodrome sans avoir rejoué, mais non, je n'ai pas pu m'empêcher.
France Culture vous offre des places. Vos invitations au 32 30, tapez étoile, puis 23, 34 centimes d'euros la minute.
Bonjour, vos rendez-vous de cette matinée sur France Culture. 9h05, la fabrique de l'histoire. Cette semaine, histoire des classes sociales. Et ce matin, le grand témoin est Ernest-Antoine Sellière, qui depuis l'été 2005 est président de l'UNIS, la Fédération des entreprises européennes basée à Bruxelles. 10h, les humanités. Ce matin, les lundis de l'histoire se consacrent à Gilles Caillotin-Pellerin. À propos de Gilles Caillotin-Pellerin, le retour de Rome d'un Sergi Rémois, 1724, présenté par Dominique Julia, directrice de recherche au CNRS, invitée de l'émission, avec Pierre-Antoine Fabre et Arlette Farge de l'École des hautes études en sciences sociales. 11h, les chemins de la connaissance. Cette semaine, psychanalyse, la nouvelle clinique. Invité ce matin, Éric Laurent, pour évoquer la psychose ordinaire. Et tout de suite, debout, voici les matins de France Culture avec Ali Badou.
Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture, au programme jusqu'à 9h. Ce lundi 4 septembre à 7h20, vous avez rendez-vous comme chaque matin avec les enjeux internationaux qui vont aujourd'hui au Mexique. 2 mois après les élections, 3 mois après la prise de fonction du nouveau président, comment sortir de l'impasse politique actuelle? C'est la question que posera Éric Laurent tout à l'heure. Et puis à 8h20, notre invité sera Bernard Kouchner. Bernard Kouchner qui revient tout juste du Liban et d'Israël où il est allé poursuivre une série de reportages. Beaucoup de dossiers à aborder avec lui, à commencer évidemment par l'application 1701 de la FINUL de l'ONU, pardon, au moment où arrivent les premières troupes de la FINUL au Liban. On l'interrogera aussi sur la reconstruction du pays. À la fin de la semaine dernière, la conférence de Stockholm permettait de réunir près $1 milliard pour l'assistance d'urgence et les premiers efforts de reconstruction. Une partie de la population libanaise vit toujours dans des conditions d'extrême précarité. Autre dossier moins sur la scène médiatique, le Darfour, où on attend toujours l'intervention des casques bleus alors que se poursuivent les massacres de populations civiles. Et puis, on parlera aussi de politique intérieure en France et notamment du Parti Socialiste après les universités d'été de La Rochelle. Dialogue donc tout à l'heure avec notre invité Bernard Kouchner. Vous écoutez France Culture, il est 7h. Et le journal est présenté par Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Ali, et bonjour à tous. La fin des vacances pour plus de 12 millions d'élèves. Ils reprennent ce matin le chemin de l'école. Une rentrée sous tension partagée entre la colère des profs devant les suppressions de postes et l'angoisse des élèves dont les parents sont toujours sans papier. La poursuite du match à distance entre Nicolas Sarkozy qui clôturait hier son université d'été par un appel aux jeunes et à la rupture et Ségolène Royal en Lozère qui défendait non la rupture mais la différence. Nous reviendrons sur l'une et l'autre, avec notamment une analyse de Jean-François Kahn sur le monde bureaucratique de Nicolas Sarkozy. L'actualité à l'étranger marquée par l'offensive lancée par l'OTAN contre les talibans en Afghanistan et de lourdes pertes depuis ce week-end des deux côtés. Nous reviendrons quant à nous sur le débarquement très discret des contingents italiens au sud-Liban avec un reportage d'Olivier Denré et sur ces négociations qui seraient en cours en Israël pour obtenir la libération du caporal Shalit. Les cartables sont prêts, les livres bien rangés, de la maternelle à la terminale. C'est donc jour de rentrée, une rentrée déjà tendue par l'annonce d'une grève le 28 septembre pour protester contre les suppressions de postes et par l'inquiétude de milliers d'enfants scolarisés dont les parents sont sans papier. Une rentrée marquée également par quelques nouveautés, la mise en œuvre des collèges Ambition Réussite, il en sera question dans le journal de 8 heures, la note de vie scolaire qui notera le comportement de l'élève au collège et la mise en œuvre de la loi Fillon sur l'école avec son fameux socle de compétences. Dans le Figaro de ce matin, Gilles de Robien, le ministre de l'Éducation, annonce lui son intention de réformer de nouveaux fondamentaux, les maths et la grammaire. Un ministre, Sonia Bourane, qui ne doute pas de réussir sa rentrée.
Le ministre de l'Éducation parle d'une belle rentrée avec beaucoup d'amour et les plus grands moyens du monde. Les syndicats d'enseignants, à l'inverse, prédisent une rentrée tendue. Avant même la reprise des cours, ils ont déjà programmé une journée de grève le jeudi 28 septembre. Ils dénoncent 8500 suppressions de postes. Le ministère donne le chiffre de 1400 professeurs de collège ou lycée partis à la retraite qui ne seront pas remplacés cette année en raison d'une baisse du nombre d'élèves. En revanche, Gilles de Robien affirme que plus de 1000 recrutements sont effectués dans le primaire où les effectifs augmentent. Au total, 884 000 enseignants retrouvent leur salle de cours et 12 400 000 élèves reprennent le chemin de l'école ou l'ont déjà repris pour le tiers d'entre eux qui pratiquent la semaine de 4 jours. Parmi eux, 12 000 apprentis juniors ont fait le choix de l'alternance, c'est 20% de plus que l'année dernière. Une rentrée un peu particulière avec les incertitudes qui pèsent sur le retour en classe des enfants de sans-papiers, avec aussi l'intention des syndicats de peser dans le débat présidentiel. Le ministre de l'Éducation a lui-même reconnu qu'il avait un contrat précaire de 7 mois.
Contrat précaire pour le ministre, à chacun sa rentrée. Pour Lola, 10 ans, rencontrée par Vincent Rodriguez, c'est une année décisive qui s'ouvre. Elle entre en effet en CM2, dernière année de primaire.
Ça représente plein d'amis, ça représente des nouvelles maîtresses, ça représente une entrée au CM2, ça représente plein de trucs.
C'est une année importante de CM2.
Oui, parce qu'on se prépare pour la sixième et le CM2, si on le rate, on n'est pas très content.
Qu'est-ce qui est important le jour de la rentrée?
C'est de faire connaissance avec nos maîtresses, d'être un petit peu ami avec tout le monde, de ne pas avoir d'ennemis. Ça, c'est très très important.
Ne pas avoir d'ennemis, mais quand on fait de la politique, se garder également de ses amis. Nicolas Sarkozy le sait bien, qui a lancé sa campagne présidentielle ce week-end, alors que dans son camp, les Chiraciens resserrent les rangs pour répéter que le candidat de l'UMP n'est pas encore désigné. Nicolas Sarkozy qui clôturait hier l'université d'été de l'UMP à Marseille, en présence de Johnny et de Doc Gineco, clôture par un appel à la rupture, lancé en direction des jeunes, la jeunesse qui, d'après les sondages, lui ferait défaut. Appel lancé au travail et au respect de son pays, ce qui donne pour le quotidien Libération ce matin le triptyque travail, jeunesse, patrie. Nicolas Sarkozy, l'homme de la bulle, selon Jean-François Kahn.
C'est reconstituer une sorte de monde, de super monde, homogène, fusionnel, syncrétique, formé du très haut patronat, de la très haute banque, du très haut monde financier, de la haute publicité, des patrons de presse, d'un certain nombre d'intelligentsia médiatique, du top, du showbiz, etc., qui constitue une sorte de monde de plus en plus fermé, où ils pensent pareil. En gros, ils ont la même vision du monde, ils emploient les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes expressions, et qui forment une bulle. Ces gens, en gros, se reconnaissent dans Sarkozy comme ils ne se sont jamais reconnus depuis 1944 dans un homme politique. Le processus est le même processus qui fait qu'avant-guerre, ils recherchaient un homme fort pour pouvoir rompre avec le modèle social français, pour une rupture, pour etc. Et qu'ils ont cherché beaucoup de gens d'ailleurs, dont Pétain. Leur obsession, c'est tournons la page, maintenant c'est fini, il faut rompre avec tout ça. Alors aussi bien le Front populaire que De Gaulle, Chirac, etc. Et l'homme qui va représenter